Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage a commencé enfant, quand Robert Dampnier rêvait d'Himalaya, et plus précisément du royaume du Bhoutan. C'est en 1987 que Robert y met les pieds pour la première fois. Tout de suite, il est saisi par les beautés de ce pays. Pics enneigés, costumes traditionnels, monastères accrochés aux falaises, moines bouddhistes en robe rouge, tout y est. Depuis, Robert n'a cessé d'y retourner. Il est aujourd'hui l'auteur du livre « Bhoutan, royaume hors du temps ». Dans cette émission de Regard d'ailleurs, enregistrée sur le festival du Grand Bivouac, Robert partage avec nous ses connaissances d'un pays qui fait rêver.
Je pense que j'ai toujours été attiré par le voyage et par les pays lointains, et également par l'Himalaya. Peut-être depuis que je suis tout petit, depuis que j'avais lu, je ne sais pas, Tintin au Tibet ou alors Alexandre Davinel et ses aventures fort intéressantes. Et alors, voilà, j'ai commencé à voyager, j'ai une trentaine d'années. Donc je suis d'abord allé au Tibet, au Népal, dans les pays qui étaient, voilà, qui étaient davantage connus. Et puis un jour, par hasard, en ouvrant des cartes de l'Asie et de l'Himalaya notamment, il y a une trentaine d'années, je suis tombé sur le Bhoutan. Alors là, c'était très peu connu. Et dans les années, voilà, 1985, il y avait une poignée de voyageurs qui connaissaient ce pays, qui à l'époque d'ailleurs recevait que 2500 touristes par année. Donc c'était vraiment très très peu. Et alors je suis allé là avec des amis, on a cassé notre tirelire, on est allé au Bhoutan. Et là je suis tombé immédiatement amoureux de ce pays, où je suis retourné ensuite un nombre incalculable de fois.
Donc là en 1985, le Bhoutan est déjà un pays qui limite l'accès au tourisme.
Alors oui et non, limite n'est pas la bonne définition du tourisme au Bhoutan, il n'y a pas réellement de limite. En revanche... Le Bhoutan est un pays qui est plus cher que ses voisins, le Népal ou l'Inde, et qui en tout cas organise le tourisme de façon très différente. C'est-à-dire qu'au Népal, en Inde, vous pouvez arriver avec un sac à dos, et puis finalement, ben, selon vos moyens, vous payez un hôtel à 15 ou 20 dollars, et vous payez des repas à 5-6 dollars. Au Bhoutan, c'est pas possible. Au Bhoutan, vous devez acheter un forfait quotidien. Et là-dessus, vous pouvez pas négocier. En réalité, vous achetez au Bhoutan un forfait qui vous coûte quand même 250 dollars par jour. Donc c'est important, et qui comprend notamment une fameuse taxe qui va au gouvernement bhoutanais. Sur les 250 dollars, vous avez environ 30%, donc autour de 80-85 dollars, qui vont directement dans les poches du gouvernement bhoutanais. En même temps, je pense que le gouvernement utilise bien cet argent. C'est un pays où la santé et l'éducation sont gratuites. Donc c'est quelque chose d'assez rare. Et puis ensuite, dans le forfait que vous avez payé de 250 dollars, eh bien finalement, tout est compris. Vos hôtels... vos restaurants, votre voiture, votre chauffeur, votre guide, etc. Donc c'est un modèle, on va dire, touristique, d'organisation du tourisme qui est très différent de ses voisins, mais et qui est forcément plus cher. Voilà, donc vous ne pouvez pas aller au Bhoutan tout seul, mais vous devez forcément participer donc, à un groupe et passer par un tour opérateur ou une agence de voyage.
Un petit peu comme au Tibet aujourd'hui, on ne peut pas voyager d'une manière indépendante dans la zone autonome.
Oui, voilà, par exemple, oui, c'est un peu le même modèle. Effectivement, oui, au Tibet aussi, aujourd'hui, le tourisme, vous devez voyager forcément oui, avec un groupe et par une agence, etc. C'est assez réglementé et contrôlé. Au Bhoutan, ceci dit, c'est très différent. Ça peut rappeler un peu le Tibet, mais il y a des grandes différences entre les deux pays. D'abord, c'est que le Bhoutan, lui, est un tout petit pays, c'est un confetti par rapport à la Chine, qui est un pays immense d'1,3 milliard d'habitants. Le Bhoutan, c'est minuscule, c'est grand comme la Suisse, et ça ne fait que 700 000 habitants. Et puis ensuite, on connaît le régime politique chinois et la façon dont les choses se passent un peu en Chine. Dans le petit pays qu'est le Bhoutan, c'est une monarchie constitutionnelle avec un jeune roi qui doit avoir 35 ans cette année et voilà, qui est marié à une non moins charmante reine. Et puis c'est un gouvernement qui est élu au suffrage démocratique. Le Premier ministre, l'Assemblée nationale, le Premier ministre, les ministres sont élus au suffrage universel. Donc c'est une forme voilà, de monarchie, on va dire, constitutionnelle, un peu à l'image de celle qu'on connaît en Angleterre, au Danemark ou aux Pays-Bas.
Et quel est le lien entre le Bhoutan et les pays voisins ?
Alors, c'est compliqué parce qu'effectivement, quand on regarde une carte, le Bhoutan n'a que deux voisins, l'Inde et la Chine. Parce que les voisins proches, comme le Népal, eh bien, le Bhoutan n'a aucune frontière avec le Népal, puisque finalement, entre le Népal et le Bhoutan, vous avez un petit doigt de l'Inde qui s'appelle le Sikkim et qui remonte en direction du Tibet. Donc le Sikkim, qui fait environ 70 km de large, sépare le Bhoutan du Népal. Et de même, le Bhoutan n'est pas loin du Bangladesh, mais là encore, vous avez une partie de l'Inde qui passe entre les deux. Donc finalement, le Bhoutan n'a que deux grands voisins, la Chine et l'Inde. Pas rien. Des pays immenses avec chacun plus d'un milliard d'habitants.
Et la condition pour ces pays voisins est la même que pour les étrangers occidentaux? Un visa journalier de 250 $?
Non, alors c'est différent. Pour les Chinois, oui, c'est la même chose. Les Chinois vont au Bhoutan comme touristes. En revanche, et là c'est pour des raisons politiques, les Indiens n'ont pas à payer ce forfait quotidien. Pourquoi? Comme on vient de l'expliquer, coincé entre deux géants que sont l'Inde et la Chine, le Bhoutan devait faire un choix politique. Politique, diplomatique, économique, etc. Et finalement, il s'est tourné vers l'Inde. Ce qui est un peu naturel, parce que si vous regardez une coupe de la chaîne de l'Himalaya, le Bhoutan, comme le Népal, est orienté vers le sud, alors que le Tibet, lui, était orienté vers le nord, vers la Chine, justement. Et d'ailleurs, la Chine n'a jamais eu aucune revendication sur le Bhoutan. Donc le Bhoutan était tourné de façon naturelle vers le sud, donc vers l'Inde, et après il fallait faire un choix au niveau politique et économique. Donc les Bhoutanais ont choisi les Indiens, je pense que c'était le choix le plus logique. Donc aujourd'hui l'Inde apporte une aide économique très très importante au Bhoutan, apporte une aide au développement très importante au Bhoutan, et finalement donc il y a des accords particuliers, et les Indiens n'ont pas besoin de payer ce fameux forfait et peuvent rentrer au Bhoutan, je dirais, comme de simples touristes, et eux payent ce qu'ils consomment au quotidien, leur hôtel, leur restaurant, etc.
Regarde d'ailleurs. Regarde d'ailleurs.
Regarde d'ailleurs.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Vous parliez du voyageur avec le sac à dos, donc c'est pas possible d'aller au Bhoutan. Il n'y a pas des gens qui essaient d'y rentrer et passer peut-être une ou deux semaines en voyage organisé et d'étendre leur visa pour être indépendant, autonome et continuer à vivre le Bhoutan d'une manière différente.
Alors, c'est un petit peu compliqué. Non, c'est pas réellement possible. Je vous explique en deux mots. Le problème des Bhoutanais, ce n'est pas de recevoir des individuels. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont au Bhoutan en individuel, seul. Et d'ailleurs, nous, avec l'agence que je dirige, Tirawa, on a pas mal de clients qui nous demandent d'aller au Bhoutan en individuel. Donc, c'est ce qu'on organise. Donc, si vous voulez, ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est que les Bhoutanais veulent contrôler le tourisme chez eux, veulent pas voir des gens, des pions comme ça dans la nature. Donc, quand vous avez un visa, on contrôle votre visa à l'entrée, on contrôle bien votre visa à la sortie également. Donc, vous pouvez déjà pas rester, entre guillemets, au noir. Parce que forcément, vous allez vous faire coincer lorsque vous ressortirez du Bhoutan par un aéroport ou par la route. Hein ? Ne pensez pas traverser les montagnes du nord avec des cols à plus de 5000 mètres qui sont enneigés 8 mois de l'année. Et on arrive en Chine en plus, alors l'accueil n'est pas forcément sympathique. Au sud, ce sont des jungles épaisses avec des tigres, des rhinocéros, des éléphants. Donc une jungle assez infranchissable. Donc on est obligé quand même de prendre les routes ou les aéroports. Donc là forcément, vous allez vous faire repérer. Donc si vous voulez, le problème des Bhoutanais, un, ils veulent absolument contrôler leur tourisme. Et ça a été toujours leur politique, justement. Ils ne limitent pas le nombre de touristes. En revanche, ils ont mis ces taxes qui étaient importantes, qui étaient chères. Ce forfait quotidien qui était cher. Et du coup, ça contrôle. Et finalement, ils préfèrent leur devise, c'est-à-dire un petit volume de touristes à un prix élevé et pour une grande qualité de service. C'est un peu leur devise, qui est non plus pas sotte, quelque part. Pourquoi ? Parce que le Bhoutan est un petit pays qui n'a pas beaucoup d'infrastructures en termes de routes, en termes d'hôtels, en termes de restaurants, enfin toutes les infrastructures modernes d'un pays. Peu de choses au Bhoutan. Et par ailleurs, le Bhoutan a eu la sage décision de dire « Nous, on veut avant tout préserver notre culture ». Et notre nature, notre environnement naturel, notre environnement culturel. C'est intéressant. Quand on voit les répercussions que le tourisme a eu dans des pays indiens voisins, pardon, comme l'Inde ou le Népal, où par exemple le tourisme a eu des graves répercussions au Népal depuis 50 ans sur le domaine environnemental, par exemple avec le déboisement de certains pans de montagne, de certaines forêts, avec des constructions un peu anarchiques pour pouvoir recevoir des touristes. Donc les Bhoutanais ont dit nous, ça on n'en veut pas. On veut avant tout préserver notre environnement. Il faut savoir que 70% du territoire bhoutanais est couvert de forêts, dans une grande partie de parcs nationaux, de zones protégées. Donc les Bhoutanais ont dit, nous on veut d'abord préserver notre nature, également notre culture, notre identité.
Alors c'est très intéressant parce que ça s'oppose un petit peu à la logique mondiale, globale, qui est du développement économique. Et souvent le tourisme fait partie d'une des ressources les plus importantes des pays en développement. Qu'est-ce qui fait que le Bhoutan a renoncé à ça ?
Bien sûr, c'est une décision courageuse, mais qui est magnifique. Parce que, alors il faut voir le contexte du Bhoutan, qui est un petit pays. Et donc les besoins, forcément, il y a 700 000 habitants. Donc les besoins ne sont pas les mêmes que par exemple un pays voisin comme le Népal qui a 30 millions d'habitants aujourd'hui. Donc déjà ça c'est important parce que si les besoins ne sont pas les mêmes, on peut apporter des réponses différentes pour le développement du pays. C'est ce qu'ont fait les Bhoutanais. Donc ça a été leur politique et puis finalement avec le peu de touristes qu'ils ont, en les faisant payer un petit peu cher, et c'est un compromis qui peut les satisfaire à ce jour.
Vous parliez de 2500 touristes en 1985. Aujourd'hui, quels sont les chiffres du tourisme de Bhoutan ?
Alors évidemment, ils ont beaucoup augmenté et aujourd'hui on est à 100 000 touristes. Mais dans ces 100 000 touristes par année, je compte les Indiens. Et les Indiens, à mon avis, représentent pratiquement 50%. Donc c'est très différent, on ne va pas les compter dans les touristes, parce que finalement les Indiens, ils ont juste la frontière à traverser. Ils viennent parfois en voiture, beaucoup d'Indiens viennent en voiture, depuis les plaines des États indiens voisins, l'Assam, le West Bengal, le Sikkim, etc. Ils viennent carrément en voiture au Bhoutan, et souvent pour une courte durée. Donc ils viennent principalement en été en plus, lorsqu'il n'y a pas de touristes occidentaux, européens ou américains, parce qu'en été c'est la mousson. Il pleut. En revanche, pour les Indiens, ils crèvent de chaud en Inde. C'est la mousson, ils crèvent de chaud. Donc, ils aiment bien venir sur les collines et les hauteurs du Bhoutan où il y a un petit peu d'air frais. Donc, ils viennent pour des périodes courtes de 4, 5 jours, parfois une semaine. Et alors, aujourd'hui, les touristes, on va dire occidentaux, européens, japonais, américains, je dirais que ça représente environ 50 à 60% du volume touristique annuel au Bhoutan. Donc, on va dire peut-être aujourd'hui de 50 à 60 000 personnes étrangères par année.
Dans l'inconscient collectif, quand on pense au Bhoutan, on pense au BNB, le bonheur national brut. Qu'est-ce que c'est que cette valeur-là ? Est-ce que c'est un mythe ? Est-ce que c'est une légende ? Ou sur quoi est-ce que c'est fondé ?
Ah non, c'est tout sauf un mythe et une légende. Au départ, je dirais que ça a été a joke. C'était un bon mot du roi Jingme Singye Wangchuck, qui est le père du roi actuel. Mais quand je dis un bon mot, ce n'était pas simplement un bon mot d'humour, parce qu'en réalité, cet homme réfléchissait beaucoup, etc. Et c'est à l'occasion d'une interview avec des journalistes indiens, je crois, où effectivement, il a dit que pour lui, il était plus important de considérer le bonheur individuel des habitants plutôt que le développement du pays en termes de ressources et de PNB, avec des ressources induites par l'industrie, par l'économie, etc.
Donc un indicateur humain pour le développement, la bonne santé de son pays.
Voilà, exactement, un indicateur humain. Donc finalement, en résumé, on pourrait dire que ce BNB, c'est un processus de développement, mais qui met l'individu, qui met chaque Bhoutanais au cœur du processus même de développement. C'est-à-dire que dans tous les pays occidentaux qui se développent ou ailleurs, en Afrique, etc., finalement, on cherche à acquérir plus de profit, de valeur ajoutée, de développement, évidemment, qui permettent d'apporter de nombreuses facilités au pays, etc. Mais le bonheur individuel dans ces pays dits développés ou moins développés, le bonheur individuel, le bonheur de l'individu, c'est juste, à la limite, je dirais, un résultat collatéral du processus de développement. Vous me suivez ? On cherche avant tout à avoir des industries, une économie, etc., en tenant plus ou moins compte de l'environnement parfois et en le détériorant. Et puis finalement, les individus, les habitants des villes ou des villages, s'ils ont un peu de bénéfices, c'est un résultat collatéral du processus de développement économique. Alors qu'au Bhoutan, c'est exactement le contraire. On met l'individu au cœur même du processus de développement et on va renoncer à des développements industriels ou économiques parce que ça va nuire, ça va apporter une dégradation ou des préjudices à l'environnement naturel ou à l'environnement culturel. Donc finalement, par exemple, on pourrait imaginer des mines, des routes, un certain nombre de choses qui pourraient apporter de l'argent au pays. Mais les Bhoutanais vont pas le faire parce qu'ils vont dire non, ça c'est pas bon pour l'environnement et c'est pas bon pour l'individu.
Et contrairement à d'autres pays, le Bhoutan ne laisse pas les frontières ouvertes aux Chinois ou aux Indiens pour venir se servir allègrement en minerais, en forêts, en toutes les ressources naturelles qui existent et qui sont bien présentes.
Alors, il faut être honnête, les Bhoutanais essayent de se préserver de cette chose-là. Avec les Chinois, il y a peu de problèmes. Si vous voulez, comme on l'a évoqué tout à l'heure, le Bhoutan regarde l'Inde naturellement. Le Bhoutan est orienté sur les flancs de l'Himalaya, mais du côté indien, du côté sud. Donc avec les Chinois, ils ont peu de relations. En revanche, avec les Indiens, ils ont énormément de relations d'aide au développement, de relations économiques. Et c'est obligatoire, si vous voulez, parce que ce petit pays, s'il veut quand même se développer et que les Bhoutanais puissent vivre comme dans un monde moderne, on ne peut pas vivre aujourd'hui de façon isolée, comme dans un zoo. Ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Donc ils étaient forcément obligés d'imaginer un ensemble de relations politiques et économiques avec l'Inde. Alors simplement, c'est vrai que l'Inde est très présente au Bhoutan, mais les Bhoutanais ont été très prudents. Et par exemple, pour vous donner un exemple, les Indiens sont très présents au niveau du développement économique du Bhoutan, dans des industries, comme touristes, on l'a évoqué. Mais en revanche, les Indiens n'ont pas le droit d'acheter au Bhoutan des terres ou des propriétés ou des immeubles. Ils doivent forcément le faire en partenariat avec un Bhoutanais. Heureusement, ça c'est la grande sagesse du Bhoutan. Sans quoi, avec 700 000 habitants, un pays où au kilomètre carré vous avez très peu d'habitants, imaginez les voisins indiens avec plus d'un milliard. Il y aurait déjà 30 millions d'Indiens qui seraient au Bhoutan. Donc Dieu merci, là les Bhoutanais ont été très sages. Donc effectivement, ils ont essayé de se préserver, ils doivent se développer, ils tentent d'accéder à un monde moderne, mais dans le même temps, ils ont su se préserver et établir des liens politiques, diplomatiques qui sont bons, mais en même temps avec ce nombre de barrières et de protections.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Dans un monde où aujourd'hui le système économique prédomine, réussir à mettre l'humain au cœur d'un système de bien-être comme indicateur de bien-être d'un pays, est-ce que ce ne serait pas le modèle de demain, le modèle du futur ? Aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions sur notre croissance indéfinie. On se pose beaucoup de questions sur la place de l'individu et sur le mal-être ambiant qu'on peut ressentir. On parle des fois de simplicité, de décroissance, de sobriété. Oui. J'ai l'impression que le Bhoutan incarne déjà ces valeurs-là vers lesquelles l'Occident ou les pays développés tendent.
Oui, vous avez raison. Je pense qu'à bien des écarts, à bien des égards, le Bhoutan est un modèle. Est-ce que ce modèle-là, ce modèle en tout cas de développement, avec ce concept de BNB, de bonheur national brut, je ne sais pas ce que ça deviendra. C'est sûr qu'aujourd'hui, nous, on fait face, l'Occident, à un ensemble de problèmes d'ordre sociétal, d'ordre économique, d'ordre, etc., humanitaire. Le Bhoutan pourrait nous apporter beaucoup de réponses. Alors, qui sait, peut-être, parce que lorsque le père du roi actuel a énoncé ce concept hein, pour la première fois de bonheur national brut en 1974. Tout le monde l'a pris pour un doux rêveur, en disant oui, bah effectivement. Bon. Et puis, effectivement, on s'aperçoit que cette idée de bonheur national brut et ce modèle de développement, c'est peu répandu dans le monde. Répandu d'abord simplement à travers des conférences, mais qui n'existaient pas dans les années 70. Et or, depuis 15 ans, depuis 10 ans, 15 ans, on voit qu'au Japon, aux États-Unis, au Canada, en Afrique, vous avez eu, au Brésil, vous avez eu des conférences sur le BNB où les représentants du gouvernement bhoutanais étaient invités. Donc déjà, les gens ont commencé à prendre au sérieux ce concept. Et face effectivement à tous les problèmes que l'Occident rencontre aujourd'hui et auxquels nous-mêmes nous sommes confrontés, on peut imaginer effectivement que le concept bhoutanais, eh bien, peu à peu, puisse non pas se répandre, mais enfin avoir une certaine influence sur d'autres modèles européens ou américains dans les années qui viennent.
Cette sagesse, j'ai envie de dire, peut puiser son origine dans la spiritualité.
Certainement. Il y a deux choses qui, à mon avis, sont importantes. D'abord, on est en Asie. Donc, qu'on soit avec des peuples de n'importe quelle religion, que ce soit le bouddhisme, l'hindouisme, parfois même l'islam, puisque vous avez des peuples musulmans tout à fait pacifiques. On a effectivement en Asie quelque chose qui, au niveau atavique, fait que ces peuples, je pense, sont plus doux, un peu plus sages, un peu plus réfléchis et vont un peu moins vite que nous en Occident. Voilà, on ne court pas sans arrêt après le temps là-bas. D'ailleurs, c'est parfois énervant. Ça, c'est juste une petite digression. Quand vous traitez avec les autorités bhoutanaises, parfois, vous avez vite fait de prendre les nerfs. Parce que ça dure un peu et entre la bureaucratie et la façon de faire typique des Bhoutanais, c'est parfois un petit peu long. Ceci dit, vous avez effectivement quelque chose, comme je le disais, d'Atavie, qui font que ces populations vont moins vite que nous. Et une autre façon de fonctionner. Après, oui, vous avez raison de le mentionner, des traditions spirituelles comme le bouddhisme, hein, je ne vais pas dire religion, ce n'est pas tout à fait une religion, même si le Tibet, les Tibétains en ont fait une sorte de religion, ou en tout cas ont donné à ce courant spirituel initié par le Bouddha il y a 2500 ans. D'ailleurs, lui, il a pas initié de religion, il a pas dit « moi, je suis un dieu », et il a pas dit « voilà, moi, je crée une école et vous allez faire comme moi ». Il a rien dit, lui. Il a dit « moi, voilà, moi, ce que moi, j'ai fait, comment moi, j'ai trouvé le véritable bonheur au fond de moi-même ». Et finalement, voilà comment se délivrer de la souffrance et des désirs et des attachements, etc. C'est ce qu'a dit le Bouddha. Et puis après, quand même, son message était tellement rayonnant de quelque chose, finalement, il y a eu plein de disciples, et qu'après, il y a des courants spirituels qui sont nés, et que finalement, certains, comme au Tibet, on a fait un peu des religions. Alors là, je ne vais pas m'écarter, parce que ça deviendrait un peu un autre sujet. C'est vrai, quand vous rentrez dans un temple au Bhoutan ou au Tibet, vous avez l'impression que c'est une religion. Vous avez plein de statues avec des divinités, vous dites bah, ce sont des dieux, puis les gens viennent faire des offrandes, des prières, etc. Alors bon, en réalité, le bouddhisme n'est pas une religion, hein. C'est plutôt, je dirais, une philosophie, une façon d'être et une façon de vivre. Bien, alors ceci dit, maintenant je reviens à votre question. Oui, bien sûr, la spiritualité, le bouddhisme ont eu un rôle déterminant sur la façon de vivre, de se développer des Bhoutanais. Et voilà, donc aujourd'hui, ce concept de bonheur naturel brut, eh bien, tout à fait, voilà, marche totalement dans un pays comme le Bhoutan.
Je vais en revenir un petit peu à votre histoire itinéraire personnelle. Donc Robert, pourquoi vous vous êtes passionné par ce pays ? Qu'est-ce qui a fait que vous y... ouais, qu'est-ce qui a fait que vous ayez envie de mieux découvrir, d'y retourner ?
Alors moi, depuis toujours, j'étais passionné, comme je le mentionnais, par mes lectures de jeunesse, par le Tibet, l'Himalaya. Et effectivement, lorsque je suis allé au Bhoutan pour la première fois il y a 30 ans... Je suis tombé amoureux de ce pays parce que j'ai découvert un pays totalement, totalement préservé. C'est un pays qui n'a jamais été envahi depuis le 8e siècle. Alors quand j'ai 8e siècle, ça ne veut pas dire grand-chose, mais disons, c'est les premières traces au niveau historique qu'on possède du pays. Mais c'est un pays qui n'a jamais été envahi depuis le 8e siècle. C'est-à-dire, il y a eu des guerres avec les voisins, avec les Tibétains, au 17e siècle, de nombreuses guerres. Et puis, il y a eu des guerres avec les Anglais de l'Inde britannique. De l'Empire britannique des Indes au 19e siècle. Mais finalement, les Bhoutanais se sont toujours débrouillés à repousser tout le monde. Évidemment, ils avaient un environnement qui s'y prêtait à bien se défendre. Des montagnes enneigées à parfois plus de 7000 mètres au nord et des jungles quasi infranchissables au sud. Donc c'était, voilà, ça les aidait à se protéger. Donc ils n'ont jamais été envahis. Donc moi, quand je suis arrivé là il y a 30 ans, j'ai découvert un pays qui était pratiquement encore un pays médiéval. Il y avait très peu de circulation, très peu de voitures, il y avait peu de routes. Il y a encore de nombreux villages où il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau. Les gens portaient tous le costume national, hommes et femmes. Les grands seigneurs portaient toujours l'épée au côté. Vous imaginez, vous avez l'impression d'arriver dans un film, une reconstitution historique de je ne sais pas quelle contrée. Et puis finalement, bon, aujourd'hui, le pays s'est un peu développé, mais ça fait rien. Il a gardé un charme unique. C'est un pays extrêmement attachant. D'abord parce que son architecture est absolument unique. Elle est différente de ses voisins. Et ce qui est très important, elle est homogène d'un bout à l'autre du pays. Donc très belle architecture des grandes forteresses, des monastères, de l'architecture des maisons, etc., des monuments religieux, très typiques au Bhoutan. Et après, donc, comme je le mentionnais, quand je suis arrivé il y a 30 ans, tous les hommes et les femmes étaient en costume traditionnel. C'était obligatoire, y compris dans la rue. Alors aujourd'hui, c'est un peu relâché. Donc vous voyez encore beaucoup de costumes traditionnels. Par exemple, les enfants pour aller à l'école. Quand vous devez aller dans le siège d'une administration, l'équivalent d'une préfecture ou dans un ministère, vous êtes obligé d'avoir votre costume national pour les hommes et pour les femmes, pour les grands festivals religieux, etc., en nombreuses occasions. Donc, si vous voulez, vous voyez encore beaucoup, beaucoup de Bhoutanais, notamment les écoliers, tous les matins qui vont à l'école, qui rentrent le soir, qui sont en costume national, garçons et filles.
Quelle est la langue nationale ?
Alors, la langue nationale est le dzongka. Alors, dzong, c'est un mot d'origine tibétaine qui veut dire le fort, la forteresse. Ka, c'est la langue. Donc, le dzongka, c'est la langue, le langage des dzong, tout simplement. Et c'est une langue qui est proche du tibétain, qui utilise le même alphabet. Il y a de nombreux mots qui sont similaires, et on va dire, voilà, un petit peu, je sais pas, comme l'allemand et le hollandais, ou comme peut-être c'est même plus proche que le français et l'italien. Voilà, donc deux langues assez proches l'une de l'autre, donc proche du tibétain. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que le Bhoutan est un pays qui est tout en montagne et en vallée. Et autrefois, il n'y avait pas de route, il y avait des pistes où vous alliez à cheval ou à pied. Donc finalement, il y avait de nombreux dialectes et langues vernaculaires qui se sont développées à travers le pays. Et par exemple, ça c'était un gros problème lorsque le pays a développé un système éducatif dans les années 60, c'est que finalement il y avait des langues qui n'étaient pas les mêmes à travers le pays, et en plus il n'y avait pas de profs. Donc ce qu'ils ont décidé, c'est de faire venir des professeurs d'Inde, beaucoup, mais aussi d'Angleterre, de Nouvelle-Zélande ou d'Australie, et finalement d'imposer le Dzongkha, qui était la langue de l'Ouest, à tout le pays. Donc le Dzongkha est venu la langue nationale, mais sachant qu'également tous les Bhoutanais parlent très bien l'anglais.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Devant nous, sur la table, le bouquin « Bhoutan, royaume hors du temps ». Qu'est-ce qu'on va y découvrir dans ce livre ?
Alors, en réalité, ce livre, donc, qui est une réédition chez Olizan d'un livre qui était déjà sorti en livre de poche, « Bhoutan, royaume hors du temps », on y trouve finalement, c'est un récit de voyage. Un récit de voyage au pluriel. C'est le récit de un petit peu de tous mes voyages au Bhoutan. Mais si vous voulez, ces récits de voyage, un peu comme un journal, hein, un journal quotidien comme ça de mes voyages, en réalité, c'est juste un prétexte, c'est juste un support pour apprendre tout de l'histoire, de la culture, des traditions du Bhoutan. D'accord ? Donc si vous voulez, mes différents voyages dans différentes régions du pays, avec au cours des années, voilà. D'ailleurs, tout ne se suit pas de façon très rigoureuse, si vous voulez. Voilà, c'est juste vraiment, comme je viens de l'exprimer, le support de mon récit, mes voyages. Et alors, on apprend plein de choses sur le Bhoutan, sa culture, son histoire, sa tradition. Et alors, c'est bourré de petites histoires et d'anecdotes. Donc, vous avez des choses drôles, des choses tristes, des choses tragiques, des choses triviales et grivoises, parce que les Bhoutanais adorent la grivoiserie et toutes les histoires un peu salaces. Donc voilà, on y trouve tout ça. Donc finalement, c'est juste le moyen, c'est juste un véhicule pour parler du Bhoutan. Mes voyages ne sont voilà qu'une manière d'évoquer ce pays que j'aime beaucoup.
Et partager les expériences de vie dans ce pays. Donc peut-être on va s'arrêter sur une anecdote drôle.
Voilà, drôle. J'en aurais des milliers à vous raconter. Parmi les anecdotes drôles, le voyageur serait surpris de voir la décoration des maisons bhoutanaises. Parce que par exemple, sur les murs, vous allez souvent trouver des phallus peints. Alors évidemment, ça étonne toujours le voyageur. Il se demande si c'est l'enseigne d'une maison close. Pas du tout. Et en réalité, ces phallus rappellent simplement l'histoire d'un très grand lama tibétain qui vivait au 15e siècle et qui était un coureur de jupons pas permis. Du matin au soir, apparemment, il courtisait des jeunes filles et les embarquait pour dormir avec elles. Et puis, l'histoire raconte également que, j'ai honte de le dire devant un micro, que ce grand lama était pourvu d'un objet personnel assez conséquent et qu'en cas de besoin, il s'en servait pour chasser et matraquer les démons et les démones. Donc, si vous voulez, évidemment, il est très cher au cœur des Bhoutanais et il est devenu un peu une sorte d'icône auprès de cette population. Du coup, quand on voit des phallus peints sur les maisons, c'est simplement pour rappeler la vie de ce grand lama qui s'appelait Drukpa Khinle. Et finalement, par rapport à sa vie, hein, est-ce qu'il a vécu au Tibet ou au Bhoutan ? Mais finalement, on pense que de mettre simplement des phallus en peinture devant les maisons, de chaque côté des portes, eh bien finalement, ça va chasser les démons et éloigner tous les mauvais esprits.
Et pour finir, faites-moi rêver, parlez-moi de la reine du Bhoutan.
Ah non, j'ai pas le droit, je peux pas parler de la reine. Écoutez, la reine, je dois m'enorgueillir de l'avoir rencontrée plusieurs fois, parce que je connais bien le roi. Je connais le roi actuel du Bhoutan. Vous ne retiendrez pas son nom, mais qui s'appelle Jimmé Khesar Namgyel Wangchuck. J'ai rencontré le roi du Bhoutan alors qu'il avait 14 ans. Et voilà, depuis, on est resté un peu en relation. Je l'ai vu souvent au Bhoutan, je l'ai vu en Angleterre quand il faisait ses études, je l'ai vu en Suisse, etc. Donc bref, on se connaît un peu et donc je le vois parfois. Et effectivement, depuis qu'il est marié, j'ai eu la chance du coup, quand j'ai rencontré le roi, de rencontrer aussi la reine. Elle est magnifique. Comment la décrire ? Elle est très douce. Elle a un très beau visage avec des magnifiques yeux en amande qui rappellent ceux d'une biche. Et puis, elle est extrêmement gentille, très discrète, extrêmement douce. Et voilà, elle est belle comme le jour. Alors, que voulez-vous que je vous dise d'autre ?
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.